bonjour à tous. Nous bravons une dernière fois la nuit, aux côtés cette fois des sans-abri.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
C'est une obscurité qui met en lumière la précarité de ceux qui se noient dans la foule le jour, mais dorment dehors la nuit. Selon les associations, 200 000 personnes n'ont pas de domicile fixe en France. 200 000 hommes, femmes et enfants qui tentent chaque soir de trouver un toit et se résolvent, pour une partie d'entre eux, à passer la nuit dans la rue malgré le froid et les dangers. Des sans-abri dont le nombre ne cesse d'augmenter malgré les plans des gouvernements successifs. Alors entrons ensemble dans la nuit des marginaux. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Pour nous accompagner dans ce dernier périple nocturne, Axelle Brodier-Dolino, historienne chargée de recherche au CNRS, au centre Norbert Elias à Marseille. Avec nous également en duplex d'Aix-en-Provence, Patrick Brunteau, sociologue chargé de recherche au CNRS et membre du Centre européen de sociologie et de sciences politiques. À 14h50, on retrouvera le journal de l'Écho, présenté comme chaque jour par Xavier Martinet.
Nous avons distribué rien que dans le centre de Paris. On n'a pas été dans les coins perdus, on n'est pas descendu sur les bas-ports et sous les arches de pont. Dans la neige qui tombait, nous avons trouvé, sur le trottoir sous les fenêtres de l'hôtel de ville de Paris, devant le bazar de l'hôtel de ville, deux femmes et un homme qui dormaient étendus sur le trottoir dans la neige à 2h du matin. Et la police passait devant, et les policiers sont pas plus méchants que d'autres, mais ils ne savaient pas où les conduire. Mais je vous en supplie, monsieur le président du conseil municipal de Paris, mais faites quelque chose, qu'il ne soit pas dit que dans la ville de Paris, nous avons des frères et des sœurs humains qui couchent dehors dans la neige la nuit prochaine. Venez avec moi, que nous allions les voir, et ouvrez un hangar, un entrepôt, mettez de la paille. Il y a une fourrière pour les chiens qui crèvent dehors. Est-ce qu'il sera dit que dans le peuple de France, il n'y aura pas un abri pour y mettre les hommes ou les femmes qui vont peut-être mourir et qu'on escamotera en cachette pour qu'on ne le sache pas?
Bonjour Axelle Brodier-Dolino et Patrick Brunteau.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. On ouvre cette émission avec un discours particulièrement émouvant de l'abbé Pierre, prononcé lors de l'hiver 1954, quelques jours avant son célèbre appel. Un appel qui résonne encore 66 ans plus tard, Axelle Brodier.
Oui, parce que il y a toujours des gens dans les rues, on les voit au quotidien. Après, faut juste dire quand même que c'était pas le même contexte. On était dans un autre type de crise du logement qui là touchait toute la population française, ce qui est pas le cas aujourd'hui. La crise du logement touche plutôt les plus démunis, mais effectivement, c'est absolument toujours d'actualité et on n'a pas ce vaste appel comme il y a eu en 54 qui provoque une forme d'insurrection de la bonté.
Patrick Brunteau, sur les résonances de cet appel de 1954.
La première idée que je peux avoir, c'est le paradoxe de l'intervention de l'abbé Pierre par rapport à la police, puisque en fait, la police des SDF, la BAPSA, va être constituée en fait en 1953-54 autour de l'appel de l'abbé Pierre. Et le paradoxe en fait de cette création, c'est qu'au lieu d'être une police de la bonté comme l'abbé Pierre l'espérait, en fait, c'est une police de ramassage des SDF. Et cette police en fait va récupérer de force les SDF jusqu'en 1993.
On va voir qu'effectivement les relations, la relation aux SDF oscille entre répression et accompagnement jusqu'aux années 90 et peut-être même jusqu'à aujourd'hui. Mais d'abord, Axelle Brodier, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le parc d'hébergement d'urgence s'est agrandi depuis les années 50-60, mais il peine à suivre la hausse du nombre de sans-abri.
Oui, alors le parc d'hébergement, il est complexe en France. Grosso modo, il y a des hébergements qu'on dit d'urgence et des hébergements qu'on dit de réinsertion sociale, qui sont même devenus des places de stabilisation depuis 2007. Le parc d'hébergement d'urgence, il puise aux vieux asiles de nuit qui ont été créés à partir de la fin du 19e siècle. Il a assez peu grandi jusqu'aux années 80. En fait, c'était tenu par des associations ou des municipalités, des asiles de nuit. Et ça a pivoté pendant quasiment un petit siècle, avec finalement assez peu de place. À partir des années 1980, par contre, il a considérablement cru avec la crise économique et sociale qui était montante depuis les années 70, le chômage, la précarité de l'emploi et la hausse du nombre de personnes sans abri à la rue. Alors là, d'ailleurs, je vais faire une petite incise parce que c'est pas nécessairement connu de tout le monde. Un sans-abri et un sans domicile, ça n'est pas la même chose. Une personne sans domicile, elle n'a pas de logement propre. Et donc, elle peut être accueillie dans un centre d'hébergement d'urgence, elle peut être hébergée chez des tiers, elle peut être mal logée et elle peut être véritablement à la rue.
Alors que sans le sans-abri, c'est vraiment celui qui dort à la rue.
C'est celui qui est à la rue. Mmh. Et on estime qu'il y a à peu près 9 à 10% des personnes sans domicile qui sont véritablement à la rue. C'est-à-dire qu'à Paris, on en a 3500 aujourd'hui qui sont à la rue quand on les décompte, mais on en a énormément plus qui sont sans domicile.
Donc, mais on le sait pour tout le monde. On le sait pour Paris, Axel Brodier, parce qu'il y a eu la nuit de la solidarité le mois dernier. C'est la troisième année. Et alors, l'idée, c'est effectivement de recenser le nombre de sans-abri à Paris, donc avec ce chiffre de 3552. Mais à l'échelle de l'Hexagone, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des chiffres exacts.
Ah ben, il y a quasiment aucune ville qui recense ses sans-abri, donc c'est extrêmement compliqué. Il y a Rennes, il y a Toulouse, il y a Montpellier qui ont commencé à le faire. Et après, on peut faire des estimations sur la base du nombre de personnes qui fréquentent les accueils de jour, les centres d'hébergement d'urgence de nuit, etc. Mmh. Mais ça reste des estimations, c'est pas des décomptes. Et encore, tous ne sont pas faits sur la même méthode, donc on ne sait même pas exactement ce que ça donne.
Ce qu'on constate, c'est que ce nombre de sans-abri a augmenté, mais on n'arrive pas à savoir exactement jusqu'à quel point, Patrick Brunteau, puisque l'INSEE a recensé les sans domicile fixe, mais seulement en 2011 et en 2012, on n'a pas de chiffres officiels depuis cette période.
Bah, en fait, la question, pour moi, elle n'est pas celle, je dirais, empiriste de la statistique de l'INSEE ou de l'INED. Hein. Les premiers travaux, c'était aux alentours de 2000. En fait, le véritable enjeu, c'est la qualification des populations. Parce que à partir du moment où vous comptabilisez les squatteurs, que vous comptabilisez toutes les baraquements, les bidonvilles qui peuvent exister aujourd'hui, vous ajoutez effectivement les gens qui sont logés en colocation informelle chez des amis ou qui retournent dans la famille. Vous avez en fait une catégorisation totalement différente. C'est-à-dire que moi, je reprends pas du tout les mots sans-abri ou sans-domicile. Je parle en termes de classe sociale. Et donc, du coup, quand on met en fait tous les migrants qui peuvent être dans les anciens centres de Sonacotra, qui s'appelle la Doma aujourd'hui, ou l'Aftam, qui s'appelle Koalia, vous rassemblez toutes les formes de personnes qui sont en dessous du salariat stabilisé. Et vous avez, en fait, que ça soit des migrants ou des Français, vous avez toute une frange de population précaire ou sous-prolétaire qui déborde complètement la question du logement et qui renvoie effectivement à toutes les personnes qui veulent ou qui veulent pas de logement. J'ai rencontré plein de squatteurs qui ne veulent absolument pas revenir en HLM. Et donc, ces personnes-là ont aussi un rapport qui est différent au logement.
Axel Brodier.
Il a raison, mais du coup, comme l'INSEE a quand même des catégories, pour rebondir sur votre question et finir, sur le nombre de personnes sans domicile, effectivement, aujourd'hui, on serait plutôt aux alentours de 200 000. L'INSEE avait fait des enquêtes donc en 2001, on a refait en 2012, et effectivement, il n'y a pas d'enquête solide, exhaustive depuis. Or, tous les indices qu'on a des associations, des pouvoirs publics, montrent que la croissance, elle est quasiment exponentielle dans les années 2010. Donc, mathématiquement, on est à beaucoup plus que 141 000 qui était le dernier chiffre de l'INSEE en 2012. Et effectivement, les associations disent qu'on serait peut-être à 200, voire 250 000, et en fait, on n'en sait strictement rien. Alors Mais ça, c'est des sans-domicile, ça n'est pas des sans-abri.
Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir sur l'histoire des marginaux et des représentations qui les accompagnent. Et on peut d'abord remonter au Moyen-Âge, Axel Brodier-Dolino, et identifier une première figure qui est celle du vagabond. Quel est le regard qui est porté sur les vagabonds au Moyen-Âge ?
Alors, la fin du Moyen-Âge, elle est intéressante parce que c'est le tournant. Juste, il faut revenir encore un tout petit peu avant. À l'origine, le pauvre, c'est l'image du Christ. Et donc, le mendiant, par exemple, les ordres mendiants au Moyen-Âge, c'est plutôt valorisé. Et effectivement, à la fin du Moyen-Âge, on a un retournement parce que les campagnes deviennent de plus en plus pleine parce que les gens commencent à partir, ils ont faim, il n'y a pas de quoi nourrir tout le monde et donc ils commencent à errer sur les routes, à aller vers les villes, à déborder la capacité des villes, à créer aussi des rassemblements qui peuvent être des sources de sédition et donc à faire peur au pouvoir politique, à être des foyers de maladies puisque quand on se balade sur les routes, on véhicule avec soi potentiellement des épidémies et donc il y a un vaste mouvement de canalisation de ce qu'on appelle les vagabonds, c'est ceux qui vagabondent sur les routes et puis qui touchent aussi les mendiants, c'est ceux qui mendient, alors eux ils sont pas vagabonds mais ils sont quand même en situation de mendicité, qui va caractériser en fait tout le Moyen-Âge et jusqu'à la fin de l'époque moderne et même jusqu'au 19e siècle, donc vraiment 500 ans où on a des traitements extrêmement durs envers les mendiants et les vagabonds. Vous étiez pris, on vous coupait l'oreille, on vous marquait au fer rouge.
Ce sont des châtiments qui se voulaient exemplaires.
Absolument exemplaires et visibles, et puis c'était le fouet, et puis sinon le pilori, et puis après la pendaison, les galères, etc. Donc c'était vraiment exemplaire. On sait qu'en pratique, ça n'a pas été pratiqué à excessivement large échelle, mais c'était quand même, ça se voulait dissuasif. En fait, alors, ça dissuadait personne, parce que de toute façon, quand on n'a pas de quoi survivre chez soi, on est quand même obligé de partir.
Et ça concernait potentiellement une grande partie de la population. Il y a des chiffres qui disent que ce serait 25% de la population française qui aurait été des vagabonds au 15e siècle.
Oui, ben, il y a 50% de la population française à la veille de la Révolution française qui n'arrivait pas à survivre... Enfin, qui était dans une situation de précarité totale. Et effectivement, sous cette zone de précarité, oui, il y avait un quart de la population qui était en situation extrêmement difficile tout le temps.
Cette figure du vagabond traverse tout le 19e siècle. Et c'est d'ailleurs le titre d'une nouvelle de Maupassant qui est parue en 1887. Extrait.
La nuit venait, couvrant d'ombre les champs. Il aperçut, au loin, dans un pré, une tache sombre sur l'herbe, une vache. Il enjamba le fossé de la route et alla vers elle, sans trop savoir ce qu'il faisait. Quand il fut auprès, elle leva vers lui sa grosse tête et il pensa « Si seulement j'avais un pot, je pourrais boire un peu de lait. » Il regardait la vache et la vache le regardait. Puis, soudain, lui lançant dans le flanc un grand coup de pied, « Debout, » dit-il. La bête se dressa lentement, laissant pendre sous elle sa lourde mamelle. Alors, l'homme se coucha sur le dos, entre les pattes de l'animal, et il but, longtemps, pressant de ses deux mains le pis chaud et qui sentait l'étable. Il but tant qu'il resta du lait dans cette source vivante. Maintenant, il promenait ses mains sur le poitrail, sous les pattes, pour y trouver de la chaleur. Alors une idée lui vint, celle de se coucher et de passer la nuit contre ce gros ventre tiède. Il chercha donc une place, pour être bien, et posa juste son front contre la mamelle puissante qu'il avait abreuvée tout à l'heure. Puis, comme il était brisé de fatigue, il s'endormit tout à coup.
La figure du vagabond brisé de fatigue, vue par Maupassant, qu'est-ce que ce texte, lu par Romain de Bec-de-Lièvre, vous inspire, Axel Brodier ?
Eh ben, il m'inspire que le 19e siècle, il commence par 1810, qui est l'instauration du code pénal, où cette fois-ci on inscrit dans le code pénal que le vagabondage est un délit, et qui est donc, il est passible de la police et du dépôt de mendicité, que c'est le siècle de l'acmé de la répression du vagabondage en France, alors que c'est un siècle de famine, un siècle d'épidémie pour tout ce qui est le premier 19e siècle, qu'après il y a la Grande Dépression qui arrive dans les années 1870-1890, donc c'est encore un siècle de misère. Les gens continuent à chercher sur les routes comment survivre et c'est vraiment, quand on regarde les courbes de répression, elles sont croissantes et elles atteignent un acmé vers 1885-1890. Et puis après, effectivement, on se rend compte qu'en fait, c'est pas une solution parce que ces gens ne choisissent pas délibérément pour se faire plaisir de sillonner les routes, mais juste, ils sont poussés par la misère. Et on voit un mouvement de juristes et de médecins qui dit qu'en fait, ils sont pas des coupables, ils sont des victimes, ces gens-là, et qu'il faut attraper le problème d'une autre façon. Et donc, on va voir à partir du début du XXe siècle cette répression se changer en mouvement d'assistance. La pénalisation existe toujours. Elle existe jusqu'en 1992. C'est gigantesque. C'est quasiment hier. Pour autant, grosso modo, elle diminue au fur et à mesure du XXe siècle. Et puis, il y a tout un mouvement charitable véritable qui va se développer. Les asiles de nuit, qui sont d'abord des asiles de nuit privés, créés par des associations catholiques, mais aussi protestantes. On pense à l'Armée du Salut chez les protestants, qui est très connue, et par les municipalités, ces asiles de nuit.
Et donc le paradigme change. Soudain, on voit les vagabonds, les mendiants davantage comme des victimes de la situation économique, même si cette prise en charge des SDF demeure assez limitée tout au long du XXe siècle, Patrick Brunetaud.
Oui, je voudrais réagir par rapport à l'intervention de Maupassant. Je pense qu'effectivement, quand j'utilise des catégories de classe sociale, on voit bien qu'effectivement, c'est pas les mêmes choses en fonction des périodes. On apprend en fait aux élèves à bien distinguer la période féodale de la période capitaliste. Et à la période féodale, vous avez tout un ensemble de personnes qui se retrouvent entre guillemets dans la situation dite sans domicile fixe et qui en fait sont très très différentes et n'ont rien à voir avec les sans domicile fixe de la période capitaliste. Ce sont des gens qui sont des paysans qui échappent au servage. Ce sont des gens qui sont les queues de comète des armées royales et qui parfois se regroupent en brigands qu'on appelle les écorcheurs notamment. Donc ce sont des gens qui ont des propriétés sociales qui n'ont rien à voir avec ceux qui deviendront des ouvriers au chômage et qui sont mis hors logement parce qu'ils n'ont pas d'ouvrage. Parce qu'ils n'ont pas de salaire. Et donc le rapport à la structure sociale est très important. Et la vision culturaliste et atemporelle qu'ont la plupart des gens, que ça soit Castel, que ça soit Jérémec, que ça soit voilà, la plupart des historiens ou de socio-historiens, elle pose problème parce qu'effectivement on ne voit pas que la question de l'asile dans la modernité est justement une donnée nouvelle qui n'a rien à voir avec la féodalité où ça sera des galères, ça sera des obligations d'être enrôlé dans les armées, ça sera des rapatriements dans la campagne, ça sera des procès-verbaux de la maréchaussée où les gens vont être condamnés à mort par le procès-verbal de la maréchaussée.
Axel Brodier, il faut parler de rupture entre la figure du marginal du Moyen-Âge et celui de la modernité ou de continuité?
En fait, il y a tout le temps des ruptures. En histoire, l'histoire, elle passe son temps à être dans l'évolution. Et donc, effectivement, il a raison. C'est sociologiquement et du coup, dans le rapport à l'ordre politique, etc., des populations extrêmement différentes. Mais ça va continuer d'évoluer. Et encore aujourd'hui, si on regarde, par exemple, pour ce qu'on connaît du XXe siècle, il n'y a jamais, effectivement, une figure homogène. Si on regarde qui était à la rue dans les années 1950, on voit d'une part des personnes qui sortent d'asiles psychiatriques, qui sortent d'hôpital, qui sortent de prison. Et pour tous ces gens-là qui sortent de milieux fermés, il n'y a aucune structure de réinsertion. Et donc, on les balance à la rue. Mais une fois que vous avez passé un hiver à la rue, surtout si vous êtes fragile psychiquement ou si vous êtes déjà amputé, ou etc., ou si vous avez un casier judiciaire, jamais vous retrouverez du travail. Et donc, le mécanisme, il se perpétue comme ça. On trouve aussi quelques femmes très jeunes, et puis après, plus vieilles, une fois qu'elles ont été abandonnées. On trouve peu d'enfants dans ces années-là. Pendant la crise de l'abbé Pierre, dans les années 50, on trouve aussi des familles. Donc ça a toujours été un monde extrêmement composite. On a toujours aussi, mais la période très très contemporaine, on y reviendra sans doute, est encore différente, on trouve aussi déjà des étrangers. La figure du migrant, aujourd'hui on entend immigrer quand on dit migrant, à cette époque-là c'est des gens qui migraient à travers la France, d'un village à l'autre, d'un département à l'autre, et puis à la capitale ou dans les plus grandes villes. Mais la figure du migrant, elle a toujours été très importante, et par exemple dans les années 50, on avait énormément d'Algériens qui en fait venaient trouver du travail en France. Et il n'y avait pas du tout assez de foyers Sonacotra, d'hébergements spécialisés pour les migrants. Et donc, ils se retrouvaient à la rue. Donc, ça a toujours été un monde extrêmement composite. Et on ne peut pas tirer une figure archétypique du sans-abri ou du sans-domicile.
Vous avez dit, Axel Brodier, que les centres d'hébergement, que ce soit des centres de réinsertion sociale ou d'urgence, avaient commencé à se mettre en place, à se développer véritablement dans les années 50 et dans les décennies qui ont suivi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer leur fonctionnement? Comment ces structures sont-elles gérées?
Aujourd'hui, oui.
Aujourd'hui.
Comment elles sont gérées? Alors déjà, elles sont quasiment toutes gérées par des associations. C'est quand même quelque chose qu'il faut dire en France. C'est un système de délégation de services publics où l'État, je dirais pas se défausse, parce que tout dépend du point de vue sous lequel on se place, mais en tout cas, l'État confie aux associations et les associations prennent cette responsabilité de gérer ces centres d'hébergement. Donc certains sont des centres d'urgence, c'est-à-dire ils accueillent à Basseuil et ils accueillent pour quelques nuits seulement. Pendant très longtemps, on avait la règle des 3 nuits. Et des fois c'était même une nuit et c'était au maximum 7 nuits ou 15 nuits. Donc c'est-à-dire c'est totalement insuffisant pour quelqu'un qui voudrait reprendre pied et se réinsérer. Il n'y a pas le temps de monter quelques projets que ce soit et de se retaper correctement. Donc c'est vraiment du temporaire d'urgence. Et puis il y a des centres pour des... alors qui sont, elles, à plus haut seuil. Il y a un filtre où on considère que la personne est capable de se réinsérer, en tout cas qu'on va miser sur elle. Depuis, c'est comme ça depuis les années 50 très largement. Et à ce moment-là, il y a un accompagnement, un projet, c'est des accueils pour 6 mois qui peuvent être renouvelables, etc. Donc c'est vraiment des types de fonctionnement très différents. Et puisqu'on en est sur ce sujet, depuis 2007, avec la mobilisation des enfants de Don Quichotte qui a donné lieu à la loi Moll et à la loi Dallot sur le droit au logement opposable, maintenant on est rentré dans un système qu'on appelle de stabilisation, c'est-à-dire normalement on ne remet plus les gens à la rue tant qu'on leur propose pas un autre hébergement qui leur soit adapté. Mmh. Donc c'est encore une autre étape, même si en pratique il y a encore des centres d'hébergement d'urgence qui existent et qui fonctionnent à très bas seuil et à très basse durée.
Mais pour permettre une réinsertion sociale, encore faut-il que les demandeurs d'asile ou les sans domicile fixe et sans abri arrivent dans ces fameux centres qui peuvent leur permettre de recréer un lien social, et c'est pour cela qu'ont été mis en place à partir des années 90 et 2000 les maraudes.
Vous vous dérangez, il y a quelqu'un ? On est bénévoles, on est des agents de la ville de Paris, et si vous ne dormez pas, on voudrait savoir si vous pourriez nous répondre, si vous pourriez répondre à un questionnaire. Est-ce que c'est ici que vous dormez le plus souvent, monsieur ? Hein ? Vous dormez ici souvent ?
Non.
Tous les soirs, vous dormez là ?
Non.
Et vous avez besoin de quoi pour aller à la pharmacie ? De l'aspirine ? Qu'est-ce qui vous fait ? Vous avez besoin d'une couverture et puis des vêtements. D'accord. Je demande à une équipe de passer demain. D'accord. Bonne nuit, monsieur. Au revoir.
Patrick Brunteau, de quoi la création des maraudes est-elle le nom ? Quel est leur objectif lorsqu'elles sont mises en place ?
Alors, je vais vous répondre dans une toute petite minute. Je voulais juste rebondir. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Axel dans les grandes lignes. Je tenais à dire que la perspective en termes de classe sociale est intéressante dans la mesure où elle casse en fait les catégories ordinaires. Par exemple, on va dire centre d'hébergement d'urgence, CHRS, pour le niveau supérieur qui était évoqué au niveau de l'insertion. Mais en fait, on oublie en même temps de parler de l'histoire du logement. C'est-à-dire que depuis la fin du 19e siècle, le capitalisme français a été un capitalisme qui a interdit à l'État d'intervenir dans le logement social. Et les travaux qui ont été faits sur l'histoire du logement social montrent bien que ce verrou a été maintenu jusqu'aux années 1980.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Eh ben, les gens, en fait, l'État n'intervenait pas, par exemple, les asiles de la municipalité de Paris, par exemple, les gens n'avaient pas le droit de travailler, parce que sinon, ça faisait concurrence avec l'entreprise privée. Et dans l'intervention de, par exemple, c'était essentiellement des rentiers qui investissaient sur le logement, donc les gens, les classes populaires, étaient en fait logés dans un logement privé, et donc comme, pour aller vite, la classe bourgeoise et les classes moyennes se faisaient de l'argent sur les classes populaires, eh bien, elles interdisaient à l'État, jusqu'aux années 80, de faire en sorte qu'il y ait un logement social à bas prix, pour ne pas faire baisser les prix du loyer. Donc en fait, on avait des logements qui, dans l'ensemble, étaient très peu entretenus par les propriétaires privés. Donc on parle de logements insalubres pendant quasiment un siècle. Les gens, en fait, comme il n'y avait pas d'hébergement d'urgence en grande quantité, les gens étaient logés en fait dans des garnis. Même les hôtels, en fait, avaient des chambres de meublées. Et toute l'histoire du logement social est la pénurie, le manque et le logement insalubre. Et l'hébergement d'urgence, comme l'a dit Axel, c'est soit la philanthropie et le caritatif, soit ce sont les municipalités qui ouvrent dans les grandes villes un centre d'hébergement d'urgence, mais largement insuffisant pour la demande. Donc ça, c'est une question qui est très importante et qui permet de voir que jusqu'à l'appel de l'abbé Pierre, date de création des cités d'urgence et des cités de transit, qui ont existé jusque dans les années 70, eh bien, on a eu une sorte de système intermédiaire entre le centre d'hébergement d'urgence et le logement de droit commun, qui s'appelait justement les cités d'urgence, qui ont essaimé partout en France depuis l'appel de l'abbé Pierre. Et ce système-là, bien sûr, était encore plus complexe, puisqu'il y avait la DOMA, etc. Donc il faut pas oublier que la perspective d'ensemble est très importante pour comprendre que l'hébergement d'urgence, isolé comme ça, ne rend pas compte des politiques de logement et de la distribution du logement en fonction des classes sociales et en fonction de l'argent qu'il y a comme enjeu économique.
Il est important de parler aussi de l'histoire du logement, Axel Brodier, et notamment du logement social, pour bien comprendre cette question du sans-abrisme.
Et oui, il a raison dans la mesure où en fait le système d'aide aux personnes à la rue est un système par palier où on monte petit à petit les marches de l'escalier. Donc on est en centre d'hébergement d'urgence, après on accède à la réinsertion et normalement on sort au bout d'un moment. Et donc quand on sort de l'hébergement, on va dans le logement. Et si le logement est saturé, ce qui est un des problèmes aujourd'hui, dans la mesure où le logement est saturé, on ne sort plus de l'hébergement. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles effectivement il faut parler, c'est connecté à la question du logement. Et puis, il y a aussi toute la question du logement d'abord. Aujourd'hui, si on parle du lien entre hébergement et logement, aujourd'hui, il y a un grand courant qui s'appelle le logement d'abord ou chez soi d'abord ou housing first en anglais. Enfin bon, il y a des variantes et puis entre pays et puis même entre modes d'adaptation. Mais c'est l'idée de dire, en fait, ces personnes, il y en a plein qui gagneraient à être directement dans le logement. Parce qu'en fait, on leur fait perdre du temps et on les plombe, en fait, à les laisser dans des hébergements qui ne leur permettent pas de reprendre pied. Et donc, il faudrait aller directement vers un accompagnement dans un logement et non pas dans cette propédeutique un peu absurde où on ancre les gens dans un système qui ne les permet pas d'en sortir.
Patrick Brunto.
Et ce que dit Axel est magnifique parce que c'est exactement ce que j'avais envie de dire, qu'en fait la question du raisonnement par l'absurde, les maraudes dont on devait parler maintenant, eh bien le cheminement qui a été inventé par Emmanueli, qui a eu le feu vert de Chirac pour créer le premier SAMU social et à partir de là aller récupérer les gens. Voilà, et récupérer les gens dans la rue. Du coup, après, ce sont devenus tout un ensemble de maraudes, citoyennes, associatives, parapubliques avec le SAMU social. Il ne faut pas oublier que cette démarche, cette construction politique est une manière très compliquée avec des effets dans le temps long parce que la maraude suppose de recréer un lien de confiance à vide avec des gens à qui on va rien leur proposer. À part du café et du soin immédiat, de la bobologie, juste leur proposer une orientation vers un centre d'hébergement d'urgence, et puis après la filière classique, le centre de stabilisation, le CHRS, les appartements relais, c'est-à-dire les baux glissants qui permettent à l'association de donner un logement tout en étant encore, on va dire, celui qui détient le bail, et tout ça avant d'atteindre le logement. Donc c'est une procédure extrêmement longue, et le DALO, en fait, le droit au logement opposable, n'a pas véritablement apporter d'amélioration à ce niveau-là. Donc la question, elle est-ce qu'on propose aux gens, effectivement, un parcours très long, alors qu'ils sont déjà fatigués, épuisés, et qu'ils vont devoir passer par toutes ces filières et toutes ces cases. Donc ça, c'est la perspective, pour aller vite, Emmanueli, Chirac, et donc, je dirais, un petit peu social-démocrate. Ou bien on a une perspective plus contestataire, housing first, avec tout le pôle militant du travail social, du caritatif, qui disent il faut tout de suite que les gens soient mis dans un logement, que les personnes soient mises dans un logement, et à partir de là, on fait un travail social d'accompagnement pour permettre effectivement de pouvoir régler des questions d'alcoolisme, d'insertion professionnelle. Mais la révolution d'Housing First, c'est effectivement de dire on en a marre que les gens finalement s'usent, voire meurent. Parce que la durée moyenne pour sortir quelqu'un de la rue, c'est entre 5 et 10 ans.
Mais alors, est-ce qu'on n'a pas tout de même besoin de ces maraudeurs, Axel Brodier, qui, effectivement, se sont multipliés? Il y a aujourd'hui toute une myriade de maraudes qui existent. Ce sont des bénévoles, parfois, ou bien des salariés. Est-ce que leur travail n'est pas absolument nécessaire?
Mais il est nécessaire. Et puis juste deux mots quand même pour dire d'où la maraude est née. Déjà Saint-Vincent de Paul maraudait, l'abbé Pierre maraudait, donc c'est pas une innovation totale. Mais la maraude, en fait, elle est née de la dépénalisation de 92. La dépénalisation, c'est 92 dans la loi et 94 dans le code pénal. À partir de là, les travaux des sociologues ont bien montré que dans la mesure où il est dépénalisé, le sans-abri avant, il se cachait pour ne pas être vu, donc conduit au dépôt. À partir de là, il devient visible et donc il s'expose dans l'espace public. Et il est plus coupable, il est victime. Donc à partir de là, on peut aller vers lui et même lui-même, en quelque sorte, provoque cet appel. Donc effectivement, les associations ont multiplié les maraudes parce que ça reste quand même un problème humanitaire. Il n'y a pas de bonne solution. La bonne solution, enfin si, c'est de trouver un logement aux gens, mais ne pas les laisser sans nourriture, dans le froid, etc. C'est pas, enfin, les laisser mourir dans la rue, c'est pas une solution non plus.
Et donc, c'est intéressant, cette logique de quadrillage territorial qui est pris en charge par les maraudeurs, Patrick Brunto, avec cette idée aussi que la nuit est propice à des discussions plus longues et peut-être un temps pour créer, recréer du lien social.
Oui, je ne disais pas en fait en termes, on va dire, politiques ou moraux que les maraudes étaient inutiles. Je disais qu'effectivement, en termes de sociologie, de réflexion sociologique, il y a un espace des possibles et on peut faire des choses totalement différentes. Mais effectivement, il faut pas oublier qu'une partie des gens qui arrivent à la rue sont des gens qui ont été expulsés. Et il n'y a pas que des gens qui sont comme ça, des sortes de générations spontanées de gens à la rue. Donc c'est bien la réflexion globale qu'il faut avoir. Il n'y a pas que Housing First qui met les gens dans le logement. Il y a aussi les HLM qui expulsent pour impayés. Donc il faut bien voir même que les HLM dans les années 60, c'était considéré comme l'aristocratie du logement social. L'aristocratie, et très peu de gens accédaient au logement social à l'époque. Il y a toute cette histoire qu'il faut pas oublier. Et le sociologue attitré de ATD Quart-Monde, à l'époque, Jean Labins, le disait très bien quand il étudiait les cités d'urgence. Il disait, mais tous les gens qui sont bloqués en cité d'urgence ou en cité de transit n'arrivent pas à accéder au HLM parce que les conditions de ressources sont extrêmement élevées. Donc du coup, voilà, vous voyez, la pensée structurale ou globale, elle permet de voir comment les gens sont dans la rue et autres. Ils se sont effectivement des victimes, bien sûr, mais ce sont aussi des produits sociaux d'un système monétariste, le travail, le salaire, le logement, il faut payer un logement, un loyer, etc.
Une réflexion globale que l'on va continuer et que l'on va poursuivre dans un instant. Patrick Brunteau et Axel Brodier, vous restez avec nous.
France Culture. Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Roquigny.
On s'ennuie tellement. On s'ennuie tellement. On s'ennuie tellement, on s'ennuie tellement. Alors la nuit quand je dors, je pars avec Théodore dehors, 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 dehors. Marcher dans le désert, marcher dans les pierres. Marcher des journées entières, marcher dans le désert, dormir dehors, coucher sur le sable d'or, les satellites et les météores, dormir dehors. Petit gobelet d'aluminium, il faut un minimum. Si loin de la nature ici, le cœur durcit. On est si loin de l'air, on est si loin du vent. Si loin de l'océan, alors la nuit quand je dors, je pars avec Théodore dehors.
La vie Théodore d'Alain Souchon sur France Culture. La nuit se poursuit dans Entendez-vous l'écho en compagnie d'Axel Brodier-Dolino et Patrick Brunteau. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'un certain nombre de plans pauvreté ont été lancés pour essayer de faire face à cette misère extrême. Mais la lutte contre la pauvreté est loin d'être gagnée, évidemment. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'emploi ne protège plus de la rue, Patrick Brunteau.
Alors, je suis toujours un wagon en retard par rapport aux questions, vous m'excusez. Par rapport aux maraudeurs, c'est vrai que ce qui est intéressant d'étudier, c'est le fait qu'effectivement, des gens se sont professionnalisés au fur et à mesure pour créer, dans la logique de ce qu'on appelle le care ou le lien social, les capacités d'agir. On parle beaucoup des capacités d'agir et de la résilience aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont un savoir-faire énorme pour aller chercher les gens qui errent effectivement sur les niches, les interstices de l'espace public. Et c'est vrai que dans les travaux que j'ai pu mener dans l'ethnographie depuis 1995, des lieux d'hébergement d'urgence ou de la rue, j'ai pu observer et décrire précisément, effectivement, comment on aborde ces gens. Alors aujourd'hui, c'est encore plus compliqué, puisqu'il y a des dizaines de nationalités qui se retrouvent présentes sur Paris et dans les grandes villes. Et donc, si vous voulez, on pourra en reparler, effectivement, un peu plus tard.
Mais sur cette question de la pauvreté, et notamment sur le fait qu'à partir de la fin des années 70, le Secours populaire parle d'un raz-de-marée de la misère, est-ce que c'est dans le sillage de cette crise économique que se crée le RMI en 1988 avec l'idée de répondre à la grande pauvreté et ce qu'on constate aujourd'hui, Patrick Brunto, c'est que c'est peut-être l'échec de ces différents plans.
Alors non, c'est pas, il n'y a pas à proprement parler un échec. Il y a des insuffisances criantes, mais en tous les cas, il y a un progrès majeur qui a été accompli. C'est ce que j'appelle l'inclusion périphérique, c'est-à-dire que la régression qu'évoquait Axel, la disparition de la pénalisation et du nettoyage forcé des SDF, puisque j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Les mondes rêvés de Georges, qui décrit dans les années 70 notamment comment Georges était forcé, tabassé et enfermé dans des cars, qu'il était convoyé à Nanterre, il était mis nu, il était douché avec de l'eau froide au milieu des hommes, des femmes, et il était enfermé toute la nuit pour être remis le lendemain dans la rue. Et ces gens-là connaissaient ça quasiment tous les jours. Et donc ce système-là, il existait encore en partie juste avant que je commence mes travaux. Donc c'est ce système répressif qui est en partie disparu parce que l'humanitaire, en fait, est venu. Et les maraudes, c'est un produit de l'humanitaire, de lien social, d'écoute, de bienveillance. Et il y a tout un ensemble de référentiels qui sont arrivés, dont l'inconditionnalité de l'hébergement avec les enfants de Don Quichotte qui sont bien sûr un des référentiels les plus importants qui arrivait en 2006-2007. On ne remet plus les gens à la rue. À l'époque d'Emmanueli et du SAMU social, le référentiel de base, c'était de dire, on vous donne une nuit ou trois nuits, et la plupart du temps, le SAMU social, c'était une nuit, et on vous remet de dehors.
Mais alors aujourd'hui, Patrick Brunto, sur le fait que l'emploi ne protège plus de la pauvreté, je voudrais entendre Axel Brodier sur ce point, sur les SDF qui travaillent et qui, malgré tout, ne parviennent pas à trouver un logement. C'est une partie importante, je crois 14% des SDF qui travaillent le jour, mais qui ne parviennent pas à trouver d'endroit où dormir la nuit.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a une précarité de l'emploi qui est extrêmement forte. C'est 87%, je crois, des contrats qu'on conclut sont des contrats qui sont précaires. C'est le CDD, l'intérim, c'est les contrats aidés, c'est les temps partiels. Et donc, vous n'avez pas un salaire à taux plein. Et donc, si vous n'avez pas un salaire à taux plein, déjà avec un salaire à taux plein, l'ONPES, l'Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale, est en train de faire un travail extrêmement intéressant pour quantifier ce qu'est un budget décent pour vivre en France aujourd'hui, sans se priver, mais de façon minimale. Il faut 1 500 € pour une personne seule. Vous voyez bien que les minima sociaux sont à 500 € grosso modo, et le SMIG net, il est à 1000 et quelques. Et le seuil de pauvreté aussi. Le seuil de pauvreté à 1000, le SMIG à 1100. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une part gigantesque de la population qui est en dessous et dans un état de privation. Et là-dessus, il faut payer un logement, etc. Donc oui, il y a quantité de gens aujourd'hui qui travaillent, mais dont les revenus ne sont pas suffisants pour assumer notamment le logement et qui donc se retrouvent à la rue.
Et à cet appauvrissement de certains travailleurs s'est ajoutée la crise migratoire à partir de 2015.
En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup plus de familles qu'avant. On a été pendant plusieurs mois un maximum autour de 15 familles. Et là, hier soir, il y avait 34 familles qui étaient présentes sans aucune solution pour la nuit.
On a appelé le 115 et on a eu une chambre pour une nuit. Ensuite, on a dû quitter la chambre et depuis, on dort soit à l'aéroport, soit à l'hôpital.
Tous les jours, au bord du périphérique, l'association Utopia 56 tente de trouver des citoyens volontaires pour héberger ces familles.
C'est bon, on a trouvé quelque chose pour ce soir.
Oui.
Ouais, c'est bon.
D'accord.
Quand j'ai commencé Utopia il y a quelques mois, il y avait plutôt une quinzaine de familles par soir et là, il y en a le double. On a l'impression que ça va jamais s'arrêter en fait, parce que même quand une famille arrive à avoir une situation d'hébergement plus ou moins pérenne, il y a toujours d'autres familles en fait qui viennent entre guillemets grossir les rangs.
La situation notamment des migrants, malgré l'effort en matière de création de places, on ne répond toujours pas à la hauteur des besoins.
L'afflux de migrants dans le sillage de la guerre en Syrie, Axel Brodier, a entraîné une forme de concurrence dans les structures d'hébergement, alors qu'à la base, il y a des structures d'hébergement dédiées pour les demandeurs d'asile d'une part et pour les autres de l'autre.
Oui. Alors en plus, le nombre de places en centre d'hébergement d'accueil de demandeurs d'asile, donc ce qu'on appelait les CADA, a beaucoup augmenté. Mais le nombre de migrants a lui aussi beaucoup augmenté, ce qui fait qu'on a effectivement une forme de migrantisation du sans-abrisme, dit Julien Damon. Et
c'est assez vrai. Si vous regardez les chiffres, dans l'enquête INSEE de 2001, on était à 38% de personnes d'origine étrangère. On était à 53% en 2012. Et les dernières enquêtes qu'il y a, les derniers chiffres qu'on peut citer, c'est par exemple l'enquête dans les CHU d'Île-de-France en 2018, ils étaient à 73%. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a, alors les associations ont un mal fou à gérer ça, parce qu'effectivement, ça fait comme une forme de concurrence. On peut laisser personne à la rue et il faut gérer tous ces publics. Et c'est des publics très différents. On a vu tout à l'heure que tous les sans-abri étaient déjà divers, mais là, il y a effectivement une diversité encore plus grande entre les deux. C'est une épineuse question.
Ça a entraîné des problèmes de concurrence, Patrick Brunto, pardon, parce que l'afflux de migrants a débordé sur les structures d'accueil dites généralistes.
Oui, bien sûr, Axel l'évoquait à l'instant, tous les gens qui sont déboutés du droit d'asile et qui sortent des CADA se retrouvent en CHU. Mais effectivement, l'hétérogénéité, on pourra en reparler, il y a une émission entière qui devrait être consacrée à la question de la composition de ces publics. Je voulais juste dire qu'au début du siècle, la part du loyer était grosso modo aux alentours de 10%, 10 à 15% du salaire de l'ouvrier. Et aujourd'hui, dans les classes populaires, le loyer, c'est presque 50%. Alors même qu'au niveau juridique, on dit toujours que les bailleurs doivent prendre aux alentours de 33%, etc. Donc c'est vraiment la question, elle est toujours lié, encore une fois, à la monétarisation, à l'espace des classes sociales. Et qu'est-ce qui fait que les bailleurs, par exemple, ne sont pas contraints de prendre les personnes... Auparavant, les travailleurs sociaux se réunissaient en commission et sélectionnaient les dossiers les plus crédibles, c'est-à-dire les gens les plus solvables, et les présentaient aux bailleurs. Et le bailleur avait tout pouvoir pour dire je prends ou je prends pas. Avec la loi Dalloz, le système est exactement identique. C'est-à-dire que vous devez monter un dossier, mais les commissions d'éligibilité sont organisées avec un quart d'État, un quart de maire, un quart de bailleur et un quart d'associatif qui représente les SDF. Donc en fait, vous n'avez pas un droit. Le Dalloz n'est pas un droit. C'est un droit. Et donc du coup, ces gens-là, effectivement, ne peuvent pas accéder au logement.
Alors la question du logement, Patrick Brunto, elle est essentielle. Mais aujourd'hui, on voulait davantage parler de la question de l'hébergement d'urgence. Et moi, je voudrais que l'on parle de cette crise migratoire de 2015 et du fait qu'une nouvelle solidarité est apparue pour compenser le manque de place en structure d'hébergement. Et en même temps, en parallèle, il y a eu beaucoup de nuits d'hôtels qui se sont développées au point de représenter aujourd'hui un tiers de la capacité totale d'hébergement, Axel Brodie.
Oui, les nuits d'hôtels, c'est vraiment une caractéristique des années 2010. On y recourait très peu avant. On a commencé dans les années 90, on les utilisait un peu dans les années 2000 et ça a flambé depuis les années 2010. On les utilise en particulier pour les familles parce qu'on considère que c'est le plus adapté quand on n'a pas d'autres hébergements à leur proposer. Et effectivement, on a surtout des familles d'origine étrangère qui sont hébergées dans ces hôtels. Après, c'est une solution qui est une solution extrêmement coûteuse. De toutes, c'est vraiment dramatiquement la plus coûteuse et qui est dramatique parce qu'en fait, ces gens sont ballottés d'hôtel en hôtel et n'ont pas aucun ancrage stable. Donc vous imaginez, pour les enfants, avoir une scolarisation, etc., c'est des copains, c'est impossible. On n'a pas le droit souvent de faire la cuisine, donc c'est impossible d'avoir une vie de famille, c'est tout petit, c'est des hôtels souvent dégradés, donc c'est une solution au rabais qui est une mauvaise solution pour tout le monde et c'est vraiment une catastrophe.
Une solution de crise, Patrick Brunto ?
Alors justement, comme j'ai la conclusion de tout ce que je disais, c'est que non, je parlais pas du logement, je parlais de l'hébergement d'urgence. Parce que vous avez justement, comme vous appelez les SDF qui ont un emploi et qui ne peuvent pas trouver de logement. Et ma réponse, c'était ça, c'était parce que les bailleurs bloquent. Donc vous avez dans cette hétérogénéité de population, des gens qui ont un salaire et qui peuvent travailler et qui pourraient avoir un logement, soit dans un petit studio plus ou moins, on va dire, soutenu par des associations... en bas glissant, ou housing first, etc. Et de l'autre côté, vous avez effectivement des migrants qui arrivent sans chaussures, sans habits, avec des traumatismes énormes, dont l'association Primo Levi, évidemment, les encadre au maximum, etc. Notamment le GISTI pour tous les aspects du droit. Et là, on a une configuration complètement différente. Là, on a effectivement le sud du monde, qui vient au nord pour survivre par rapport à des logiques qui n'ont rien à voir. Et ces logiques-là, elles existaient par le passé. La mairie de Paris a hébergé, en virant les SDF de l'époque, les vagabonds de l'époque, à l'époque des Bad People, eh bien, au début des années 70, les Baudricourt notamment, et la plupart des centres de la mairie de Paris qui pouvaient accueillir à peu près 3000 places, eh bien, ont accueilli des milliers de boat people. Et avant, en 62, c'était les réfugiés d'Algérie.
Mais est-ce que les problématiques entre, effectivement, les personnes qui viennent d'un pays étranger et celles qui ont été expulsées, est-ce qu'il n'y a pas des problématiques différentes et des réponses plus ou moins, qui sont plus ou moins adaptées selon le centre dans lequel on va? Et aujourd'hui, quelles conséquences ça peut avoir, ce mélange entre structures d'accueil généralistes et structures dédiées aux migrants, Axel Brodier?
Non, mais c'est surtout cette question, pour rebondir sur ce que disait Patrick Brunto, on a quand même une massification, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y avait les boat people, c'est vrai qu'il y avait il y a eu un certain nombre de crises humanitaires, mais il y avait France Terre d'Asile, il y avait la CIMAD, etc., qui étaient sur le front. Là, aujourd'hui, numériquement, on est très au-delà, et donc effectivement, mais après, c'est aussi une question d'humanité, c'est-à-dire que, comme il le disait, c'est des gens qui, en général, c'est le haut du panier des sociétés qui arrivent, ceux qui arrivent à payer, ne serait-ce que le départ, ceux qui pensent avoir une chance de s'en sortir. C'est des gens qui sont effectivement poussés pour des raisons de survie, pour des raisons économiques, pour des raisons politiques ou pour des raisons environnementales. Et le problème, c'est que aucun de ces facteurs est parti pour s'arranger, en particulier les facteurs environnementaux.
Vous avez cité l'association Don Quichotte qui travaille effectivement beaucoup à changer les représentations sur les sans-abri.
Bienvenue en France!
Un campement de SDF en plein cœur de Paris, sous l'œil étonné des touristes. Au total, une centaine de tentes installées pour les sans-abri, mais également pour les bien logés. Pour eux, c'était l'occasion de partager pendant une nuit ou deux des conditions de vie difficiles.
Je me doutais très bien que c'était pas évident la vie à la rue, que le regard des passants n'est pas évident non plus, hein, quand on était dehors et que les gens nous regardaient de haut en bas. Enfin, on le sait, mais voilà, on peut le vivre un tout petit peu, ouais. Sans vouloir jouer les SDF pour autant, hein, c'était pas le but de l'opération non plus, quoi.
On voit qu'on n'est pas tout seul quand même. Qu'il y a des gens qui comprennent ce que c'est la vie du dehors. J'espère. Ou alors.
Je pense que sur 56 millions d'habitants, on peut être vraiment plusieurs milliers à camper par solidarité et donner 2 minutes de notre temps pour les SDF. C'est une méthode pour contester et pour demander à l'État, exiger de l'État ce qui s'occupe de ces gens. Voilà.
Dormir avec les sans-abri, cette initiative de l'association Les Enfants de Don Quichotte visait à sensibiliser l'opinion sur les conditions de vie des gens qui dorment dans la rue. Qu'est-ce qu'on peut dire, Axel Brodier, de l'évolution justement des représentations sur les sans-abri?
Alors, grosso modo, on va quand même dans le bon sens de plein de façons. D'abord parce que on a dépénalisé. Ensuite, parce qu'on a aujourd'hui humanisé et stabilisé les gens, stabilisé les centres et humanisé aussi les places. L'accueil est complètement différent de ce qu'on avait encore dans les années 90, où c'était à vomir les descriptions qu'on a. Enfin, on comprend que les gens ne voulaient pas aller dans les centres. Donc, on a fait énormément de progrès. Après, effectivement, il y a encore un certain nombre de problèmes et le nombre de places augmente, mais le nombre de personnes en situation de besoin augmente aussi. Et là, ça relève d'équilibres géopolitiques, géostratégiques. Ça relève d'un équilibre mondial, le monde est mondialisé et donc ça déborde largement le secteur lui-même du sans-abrisme. Je voudrais juste dire sur les enfants de Don Quichotte, puisqu'on avait quand même le petit extrait, donc c'était en 2006-2007 à l'hiver, et c'est intéressant, c'est qu'ils ont réussi là où tous les acteurs professionnels avaient échoué, c'est-à-dire que juste l'année d'avant, on avait eu les tentes de Médecins du Monde, le même hiver, juste un an avant, quasiment à Paris, les mêmes tentes, etc. Médecins du Monde, un acteur professionnel. Et là, c'est juste un acteur, quelqu'un de la société civile, qui réussit à mobiliser les gens, qui réussit à faire changer la loi. En 2007, la loi change de plein de façons, le DALO, la loi Moll, etc. Donc ça change complètement, et c'est un acteur novice dans le champ, qui réussit à mobiliser, un peu comme l'abbé Pierre, en 54, était complètement inconnu dans le champ caritatif, puisqu'il était député et prêtre, mais qu'il n'était pas du tout connu pour la petite association qu'il avait que depuis 5 ans. Et ben voilà, donc en fait, tout est quand même encore possible. Moi, je trouve que c'est un vrai message d'espoir.
Et on voit que ce sont des associations qui font largement bouger les choses, Patrick Brunto.
Oui, notamment sur les Don Quichotte, parce que j'ai sorti un bouquin, effectivement, sur les enfants de Don Quichotte, quelques années après, puisqu'il a fallu retrouver les acteurs et les SDF qui ont participé à l'expérience. Et la question, en fait, qui est posée en termes de mondialisation de ces centaines de milliers de réfugiés de par le monde qui viennent dans le Nord, il y a déjà des réponses qui sont toutes simples, mais qui ne sont absolument jamais évoquées par les politiques. C'est quoi, par exemple? C'est la suroccupation des HLM par les classes moyennes. Vous avez, par exemple, toute une mafia qui existe sur Paris, toute la politique Chirac-Tibéri de mettre les membres des partis politiques dans les HLM. Par exemple, il y avait même des ministres qui étaient logés en HLM sur Paris. Et donc, il faut nettoyer tout ça. Même s'il y a des amendes et des surcoûts quand vous êtes de classe moyenne et que vous êtes en HLM, vous pouvez avoir un surcoût de 30, 40, 50% en fonction de vos revenus. Il n'empêche qu'il y a une estimation d'environ 500 000 logements qui pourraient être donnés à des gens, des centres pour désemboliser. La grande question, c'est l'embolisation. Tout est saturé. Et donc, il y a vraiment des choix politiques qui sont très simples.
Et qui sont
l'autre
aussi...
choix. Oui. L'autre choix, je finis là-dessus, l'autre choix, il est tout simple. Ce sont les réquisitions. Vous avez des immeubles vides.
C'est ce que j'allais vous dire, les logements inoccupés. Voilà. Et alors, effectivement, il y a beaucoup de mesures qui pourraient être prises là-dessus, mais je voudrais qu'on finisse sur un dernier point qui est la réalité de l'augmentation du nombre de sans-abri, Axel Brodier. Ce que l'on constate dans les différentes études, alors même si on a dit que c'était très compliqué d'avoir des statistiques exactes sur le nombre de sans-abri, mais il y a un certain nombre d'études qui expliquent qu'en réalité, depuis un siècle, le nombre de sans-abri n'a finalement pas tant augmenté que cela.
En fait, tout dépend si on regarde les sans-abri ou les sans-domicile. Ce qui est étonnant, c'est de voir que le nombre de personnes sans domicile, lui, il augmente, le nombre de personnes véritablement sans-abri, en tout cas sur les grandes villes qu'on connaît, il reste assez stable. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de personnes à la rue qui est... il a même tendance à diminuer, puisqu'on pense qu'à Paris, en 1900, en 1950, il était plutôt de 10 000, et aujourd'hui, les chiffres nous montrent qu'en fait, c'est plutôt 3 000. Après, c'était un peu à la louche les enquêtes qu'il y avait avant. Par contre, le nombre de personnes sans domicile, lui, en fait, il augmente, mais il augmente surtout depuis les années 90-2000. Et là, c'est un phénomène très contemporain, c'est le halo du sans-abrisme, en quelque sorte, qui est hébergé dans les centres, dans tous les logements qu'on peut essayer d'inventer. C'est la question des personnes migrantes qui, on l'a vu, éminemment complexe. Et là, effectivement, c'est un sismographe de la conjoncture, en fait.
Parce qu'il y a quand même un sentiment que le nombre de sans-abri augmente. Alors, est-ce que c'est lié au fait que notre tolérance à la misère diminue? Qu'est-ce qu'on peut en conclure?
Non, le nombre de sans-abri augmente parce qu'effectivement, quand il y a aujourd'hui plus de la moitié des sans-abri qui sont des migrants, c'est une réalité que le nombre de migrants augmente. Et il augmente dramatiquement pour des raisons économiques, pour des raisons environnementales. La quantité de gens qui meurent dans les pays du Sud et qui n'ont d'autre choix que de traverser la Méditerranée, elle augmente. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les frontières. Ça ne suffit pas à endiguer puisqu'ils viennent de toute façon quand même. Leur vie est en jeu.
On se souvient de la promesse d'Emmanuel Macron pendant sa campagne. Il s'était engagé, ou plus exactement après son élection, à ce que plus personne ne dorme dans la rue à la fin de la première année de son mandat. Force est constater qu'on est loin du compte. Comment, pour finir, Patrick Bruneau, on peut expliquer aujourd'hui, peut-être, et remédier, répondre à cet échec collectif?
En tout cas, oui, ce débat politique où Jospin avait dit il y aura plus aucun SDF dans la rue, enfin, de droite ou de gauche, ils ont tous sorti ça. Mais de l'autre côté, comme je vous dis, c'est la question de la redistribution. De la même façon que le RSA a été calculé en fonction du SMIC, et Jean-Michel Bellorget disait dans La Gauche et les Pauvres qu'il ne faut pas désespérer Billancourt. Donc si on donne un RSA à quelqu'un qui travaille pas, le type qui est smicard chez Renault va arrêter de travailler. Donc il y a une sorte de gestion structurale et relationnelle des ressources et des pouvoirs. Et c'est dans cette configuration globale qu'il faut voir que on peut quand même malgré tout agir dans la solidarité républicaine. Le logement social a été fait essentiellement pour des gens qui ont besoin du logement social. Donc il faut virer les classes moyennes qui occupent sur Paris notamment et dans les grandes villes massivement ces logements parce qu'ils sont sur Paris. Très peu de cadres veulent aller en banlieue. Donc du coup, un des grands défis, ce serait effectivement une sorte de Grenelle du logement social où toutes les associations, les chiffres de l'Abbé Pierre, de la Fondation Abbé Pierre, etc., tous les partenaires seraient autour de la table pour dire voilà, il faut mettre en accession à la propriété les classes moyennes pour véritablement avoir un désengorgement de l'hébergement d'urgence pour tous ceux qui sont en précarité ou qui ont des salaires ou des revenus et laisser la place à tous ceux en dessous.
On vous a compris, bien compris, Patrick Bruneau. Un dernier mot, Axel Brodier-Dolino.
Rajouter que effectivement, du coup, je parlais pas mal des migrants ces derniers temps parce que c'est une part croissante, mais il y a quand même une petite moitié qui sont des populations françaises, tout simplement, et là qui sont souvent des populations qui cherchent du travail. Et là, pour le coup, ça renvoie vraiment à la question économique de la lutte contre le chômage, la lutte contre la précarité de l'emploi, le fait de donner un salaire décent pour que les gens ne soient pas condamnés à la rue.
On voit que c'est un sujet qui touche à toutes les problématiques actuelles. Un grand merci à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui.
Un grand merci à vous.
Et c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet et son journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
La politique agricole commune est-elle en sursis? Une chose est sûre, avec un budget en baisse de 80 milliards d'euros, les négociations qui commencent cet après-midi à Bruxelles seront âpres.
Oui, priorité absolue, hein. Ce sont les termes de l'Élysée hier pour définir sa position en défense du budget européen commun à discuter pour les 7 prochaines années. Car si la dernière proposition retenue pour en discuter, celle du président du Conseil, Charles Michel, est intermédiaire, elle prévoit quand même une baisse de 383 à 239 milliards d'euros sur 7 ans. Alors, l'agriculture n'occupe pas la même place dans chacun des pays européens, mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'en période de post-Brexit, avec l'impératif de réorientation verte et technologique des budgets, eh bien, celui de la PAC n'est plus forcément en faveur. Un groupe de 4 pays qui s'appelle les Frugaux soutient d'ailleurs les propositions à la baisse et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture s'inquiète. Écoutez ce qu'en dit son chef économiste, c'est Thierry.
Dans le cadre financier pluriannuel initial, il était question en euros courants de moins 5% de baisse. Mais si on calcule ça en euros constants, on est sur une baisse de 11%. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Ce qui nous ramènerait finalement à l'horizon 2027 à un budget agricole qui représenterait 27% du budget total, alors qu'il était encore de 66% lors de la première grande réforme de la PAC en 1992. C'est ce qui inquiète la France et en particulier les agriculteurs, mais aussi les régions. C'est que si ça se précise et si ça se confirme, il est bien évident qu'un certain nombre de secteurs, notamment dans l'élevage, c'est évidemment des perspectives de revenus moindres à nouveau, alors que sur des éleveurs de viande bovine, des éleveurs laitiers, ils sont déjà en dessous de la moyenne du revenu des agriculteurs sur l'échelle nationale. Donc entre certains pays membres qui estiment que, ayant rempli l'objectif de la PAC à l'origine, c'est-à-dire l'autosuffisance, on n'en a plus besoin maintenant de cette agriculture, il faut quand même rappeler du coup au passage que c'est précisément parce qu'il y avait une politique de soutien à l'agriculture depuis les années 60 qu'on a pu produire et atteindre l'autosuffisance, qui était quand même l'objectif prioritaire.
Plusieurs syndicats agricoles européens manifestent aujourd'hui à Bruxelles et pas sûr qu'un compromis soit trouvé avant la fin de l'année.
Oui, d'abord parce que l'arbitrage budgétaire seront très nombreux au niveau européen, décarbonés, innovés, forcés à changer les pratiques ou protéger les agriculteurs. Et puis, les 27 ont théoriquement jusqu'à octobre pour s'entendre avant l'adoption du budget. Mais entre-temps, rien ne changera vraiment pour les agriculteurs puisqu'une période de transition d'un an avec maintien du budget actuel a été établie. Beaucoup disent qu'elle durera 2 ans.
On passe aux brèves. Agriculture toujours, des tensions également entre la FNSEA et Mediapart, accusés de vouloir mener un règlement de compte après la publication d'un article sur le salaire de ses dirigeants.
Oui, de ses directeurs généraux successifs, entre 13 et 15 000 euros mensuels, grassement payés grâce notamment aux cotisations des agriculteurs, écrit l'auteur de l'article. Alors, révélation utile ou attaque en règle, comme le dénonce la FNSEA, veut-on déstabiliser des personnes ou le syndicat? Ceci précisément, ou comme le souligne l'article, le syndicat réclame une retraite minimum à 85% du SMIC pour les agriculteurs dans le futur système.
Une coopération européenne qui décolle en Europe, c'est le futur avion de combat européen. Allemagne et France signent aujourd'hui un premier contrat de 150 millions d'euros en toute égalité.
Oui, 50-50 exactement pour développer ce démonstrateur d'ici 2026. Tout sur le papier indique un partenariat entre égaux. Les entreprises françaises Safran et l'allemand MTU par exemple pour s'occuper des moteurs. Pour le reste, ce sont des groupes largement européanisés, Airbus, MBDA, Thales, l'Espagne devrait rejoindre d'ailleurs le consortium. Et puis 150 millions d'euros, cela peut paraître modeste, mais le programme montera jusqu'à 8 milliards d'euros en 2030. De quoi aussi donner quelques ailes nouvelles à Airbus qui paye les pots cassés de son avion développé seul, l'appareil A400M.
Et pour finir, un mystère qui grandit dans les institutions financières. La Banque mondiale est au cœur d'un scandale potentiel de détournement de fonds publics.
Oui, c'est l'enjeu de cette étude publiée hier sur 22 pays pauvres bénéficiaires de l'aide de la Banque mondiale ces dernières années, dont les chercheurs ont mesuré le taux moyen d'évaporation de cette aide à 7,5%. Ce n'est pas la première fois que la Banque mondiale se trouve l'objet de scandale. Cette fois, les faits ne sont pas tout récents et l'étude non plus d'ailleurs, mais selon The Economist, elle aurait été caviardée, voire elle aurait fait l'objet d'une tentative d'étouffement, ce qui serait la raison de la mystérieuse démission de sa chef économiste Penny Goldberg au début du mois.
Merci Xavier, et à lundi.
Say whispers, mesmerizing sentences. She whispers mesmerizing sentences with a low voice, with a light breathing, with her eyes closed but a piercing gaze, with a deep voice, with a light breathing, with her mouth closed.
On se quitte avec la chanteuse sénégalaise Awali, Mesmerizing. Un grand merci à Axel Brodier-Dolino et Patrick Brunto de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages « Combattre la pauvreté, vulnérabilité sociale et sanitaire de 1880 à nos jours » pour Axel Brodier-Dolino, « L'arrière-cour de la mondialisation, ethnographie des paupérisés » pour Patrick Brunto. Merci aux techniciens de France Bleu Provence qui ont permis ce duplex et merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Alia Tovin et Alain de Rocourt. À la réalisation, Émilie Valla. À la technique aujourd'hui, Élise Le. On se retrouve demain pour notre table ronde d'actualité économique, budget européen, la somme des divisions, c'est le titre mathématique de notre émission ce vendredi. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast.